Radio Okapi. Okapi.
Okapi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Jody Daniel Kachama. Okapi.
Campus à Kinshasa avec des camarades étudiants. Merci d'applaudir très 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 fort. Et c'est à l'occasion des 18 ans de la Radio de la Paix, Radio Okapi. Nous sommes en direct de Bel Campus. Au micro, c'est Jody Daniel Kachama. Marcel Nombombalakeba assure la coordination. Tati Mapoukou est à la. Elle assure la réalisation de cette émission en direct de Bel Campus. Alors tout à l'heure, de quoi allons-nous parler? Eh bien, oui, on peut se calmer, merci. De quoi allons-nous parler tout à l'heure? Nous allons parler de la lutte contre l'insalubrité dans la ville province de Kinshasa. Avec nos invités, et nous avons l'honneur d'avoir sur ce podium des invités intéressants. Nous avons le ministre provincial de l'Environnement, Monsieur Tengelito, qui est avec nous sur ce podium, ainsi que d'autres invités que je vais vous présenter tout à l'heure. Bob Landou est à la technique, et merci à vous, camarades étudiants, d'être là, nombreux, pour participer à cette émission Okapi Service. Bien, l'insalubrité est un problème majeur dans la ville province de Kinshasa, cette mégalopole qui ressemble aujourd'hui à une ville poubelle avec des tas d'immondices qui jonchent les rues. Les ordures jetées n'importe où exposent la population à certaines maladies. Malgré les efforts entrepris depuis quelques années pour rendre la ville propre, rien ne semble marcher. On parle aujourd'hui même de l'opération Kin Bopeto. Alors bon nombre de personnes estiment qu'elle évolue en dents de scie. Que faire pour faire face à l'insalubrité dans la ville province de Kinshasa et même ailleurs à travers le pays? Eh bien, on en parle aujourd'hui dans cette émission Okapi Service à l'occasion des 18 ans de Radio Okapi. Et merci à tous ceux qui nous écoutent à travers le pays et même en dehors de nos frontières en streaming sur www.radiookapi.net. Nous avons sur ce podium Monsieur Tengelito Didier, ministre provincial de l'Environnement pour la province de Kinshasa. Monsieur Tengelito, bonjour.
Bonjour Jody, comment tu vas?
Bienvenue dans cette émission Okapi Service à l'occasion des 18 ans de Radio Okapi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter efficacement contre l'insalubrité?
Merci. D'abord, je salue tous les étudiants de l'Université Bel Campus. Bonjour à vous tous. Pour mettre un frein à la salubrité, je crois que c'est d'abord un comportement personnel que l'on doit avoir. Il faut d'abord refuser l'insalubrité. Et je crois qu'au fur et à mesure que l'émission va aller crescendo, on pourra donner les différents arguments pour notamment y mettre un terme. Déjà, quand de soi-même on refuse l'insalubrité, je crois que déjà il y a beaucoup de choses qui peuvent avancer parce que l'État en tant que tel insuffle une politique. Donc l'État crée des routes, il crée des caniveaux. Ce n'est pas l'État qui jette tout ça, ce n'est pas l'État qui salit cela. Certes, il y a une politique en matière de sensibilisation, d'encadrement, mais je crois que cela doit d'abord venir de soi-même. Et évidemment, je vais expliquer par la suite avec vos différentes questions que vous allez poser.
Et quelles sont les raisons qui font que la ville de Kinshasa est toujours sale?
Bah écoutez, vous savez déjà lorsque vous circulez de vous-même, il faut voir cela sur un problème thérapeutique et au niveau de l'éducation. Beaucoup de personnes aiment à salir la voie publique ou là où ils exercent leur activité lucrative. Ils se disent parce que ils sont à l'État, business est à l'État. Et quand vous allez d'abord chez ces personnes, c'est parfois le jour et la nuit. Ce qui se passe ici au niveau de Kinshasa, et je vais y revenir un peu par rapport à un programme qui avait déjà été fait à l'époque. C'est que vous savez, Kinshasa, c'est pratiquement 9 965 km², dont pratiquement, je peux dire, 3 000 km² sont occupés de pratiquement 75 à 80% de sa population.
Aujourd'hui, on parle de 12 millions d'habitants.
Non, on ne peut pas dire 12 millions d'habitants.
12 parce à 15 millions.
Non, on ne peut pas parler de 12 à 15 millions d'habitants. Moi, je prendrais même ce risque positif en disant on est pratiquement 20 millions. Avec le mouvement qu'on a eu au niveau du Kassai, beaucoup de personnes sont venues ici. Et avec les mouvements, de guerre qui sont passés à l'Est, beaucoup de personnes sont venues à l'Est. Donc je crois que si je prends ce risque en disant que la ville de Kinshasa se rapproche de pratiquement 20 millions d'habitants.
Voilà. Professeur Thierry Tangou, vous êtes doyen de la faculté d'agronomie et environnement ici à l'Université Technologique Bell Campus. D'après vous, quelles sont les autres raisons qui font que aujourd'hui on fait face à ces problèmes d'insalubrité dans la ville de Kinshasa?
Merci bien pour la parole, monsieur Jody. Je prends la parole comme un scientifique dans le domaine. Certes, le ministre a bien introduit en soulignant que il y a un problème de l'éducation des masses, le problème des mentalités. Ce que nous appelons en jargon technique l'éducation mésologique. Tant que le citoyen, le Congolais, le peuple ne devra pas comprendre que le problème de l'assainissement, c'est d'abord soi-même, il est difficile d'atteindre aussi des résultats, quand bien même on peut mettre une politique en place. Donc, le premier problème, nous devons penser d'abord à éduquer, à faire ce que nous appelons l'éducation environnementale. Il faudrait davantage passer les messages, sensibiliser au niveau de sa famille, au niveau de service, au niveau de relations, pour ramener tout le monde à comprendre qu'il faudrait adopter un comportement responsable vis-à-vis des problèmes de l'insalubrité.
Mais les gens disent souvent qu'il n'y a pas de poubelles dans les rues, alors qu'est-ce qu'on fera après avoir mangé une banane? Comme il n'y a pas de poubelles, la solution, c'est de jeter dans la rue ou dans les caniveaux.
C'est très bien de prendre cet exemple, mais une fois que le Congolais ou le Kinois est bien éduqué, vous allez constater que les déchets en question, ce qui vient d'être utilisé, ce qu'on doit se débarrasser, sera d'abord conservé quelque part. Il m'arrive d'utiliser les papiers mouchoirs, mais je les garde dans ma bandoulière jusqu'à ce que j'essaierai d'éviter un endroit propice pour m'en débarrasser. Tout ça, c'est la base, le soubassement de ce qu'on reçoit comme éducation environnementale. On peut bien conserver ses pots de banane, on peut bien conserver ses papiers mouchoirs et ainsi de suite. Et vous ne me direz pas que dans tout Kinshasa, il n'y a pas de poubelle publique. Il y a des endroits, certes, il n'y en a pas. Vous pouvez les conserver momentanément. Et dans certains endroits où nous passons, nous voyons des poubelles. Je prends les cas de l'UTBC. Je vois presque à chaque mètre, on a placé une poubelle publique. Mais ce n'est pas tous nos étudiants qui, peut-être, se comportent de manière responsable vis-à-vis de ça.
Malgré la présence des poubelles, ils jettent quand même les...
nous reconnaissons cela. Ce n'est pas eux tous. Oui. Qui se comporte de manière responsable. Et cette éducation-là ne devrait pas seulement provenir de l'ITBC, mais aussi au niveau de leur famille. C'est à la base.
Voilà. C'est à la base. Comment lutter contre l'insalubrité? Professeur Jacques Rigenvula, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
Je vais essayer de paraphraser le doyen de ma faculté qui était en train de dire... tantôt là qu'il fallait passer par une éducation de la population. Et je pense que cette éducation doit être fondée sur deux points un peu précis. Nous devons essayer de pouvoir amener cette éducation vers la population en leur donnant des moyens pour en fait lutter contre cette insalubrité. Savoir où jeter ces immondices, pourquoi jeter ces immondices, pourquoi éviter l'insalubrité, quelles sont les causes de ces insalubrités. Et je crois qu'avec une éducation approfondie de la population, nous pourrions trouver solution à ces problèmes.
Alors, monsieur le ministre provincial Tengelito, nous savons que la ville de Kinshasa avait lancé dernièrement l'opération Kinbopeto. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui avec cette opération?
Merci, Jody. Je sais que, et c'est le droit de la population de se poser plusieurs questions, pourquoi certaines choses prennent plus de temps? Lorsqu'on avait pris les rênes de ce ministère, nous avions fixé des assignations, que ce soit au niveau des bourgmestres, que ce soit au niveau des différentes entités et que ce soit au niveau des différentes régies. Donc je pense que à ce niveau-là, donc ces assignations dans certains coins n'ont pas été bien comprises. Et donc c'est pour ça qu'on a procédé à des suspensions, et des suspensions qui sont généralisées, malheureusement, heureusement, auprès des bourgmestres. Et il y a la deuxième phase qui va arriver aussi au niveau de la police, au niveau des marchés urbains, donc c'est-à-dire que personne ne sera à l'abri. Les assignations ont été très simples. Avant de revenir au niveau du programme de Kinshasa-Bopeto, c'est-à-dire qu'il y a eu une tournée qui a été faite au niveau de la ville. On a entendu ce que la population réclamait. Elle réclamait le calme, et ce calme-là, c'est au niveau évidemment des nuisances sonores, c'est calme au niveau environnemental, c'est le calme au niveau de leur investissement. Donc par rapport à ça, des mesures ont été prises, et l'opération Kinshasa-Bopeto, je ne peux pas dire que c'est une opération, c'est un programme qui prône, en fait, d'abord, comme l'a dit le professeur ici, mes illustres invités ici, que ça prône d'abord par l'acceptation de ce changement. Si vous n'acceptez pas ce changement, pas grand-chose va fonctionner. Donc c'est-à-dire qu'on ne peut pas réinventer la roue, nous au contraire, on a surfé là-dessus. Et les différentes assignations qui ont été données, qui sont très simples, c'est que chaque autorité municipale à son niveau doit convoquer une réunion et doit s'appliquer sur certains textes qui existent. Parce que vous savez que ces textes-là existent, vous avez l'édite 003 du 9 septembre 2013 qui lui porte protection sur les mesures de l'environnement de la ville et son assainissement. Vous avez l'édit 005 du 9 octobre 2012 qui, lui, sanctionne les nuisances sonores. Et vous avez évidemment le décret du 8 mai 2014 qui, lui, en fait, autorise la diffusion musicale dans des lieux non insonorisés. Et évidemment, vous avez l'ordonnance loi du 31 mai 1975 qui réglemente les heures d'ouverture et de fermeture des débits de boissons vendant la boisson alcoolisée. Donc ces quatre textes sont les piliers pour la réussite du programme de Kinshasa-Bopeto et qui ont fait l'objet d'assignations auprès des bourgmestres, auprès des commandants sièdes et auprès des commandants sous-sièdes. Pourquoi on va sanctionner même les policiers? Je vais vous dire qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises où on avait lancé cette opération. À plusieurs reprises, je suis sorti moi-même la nuit avec les policiers. On a sillonné la ville, on a procédé à plusieurs saisies. On a donné le tempo, pour dire donc, c'est-à-dire qu'on ne descendra pas en deçà de ça. Ce tempo a été donné aux bourgmestres qui, eux, à leur niveau, qui sont des OPJ à compétence générale, devaient l'appliquer. Donc ce sont des mesures impopulaires, mais légales. Donc on est descendu auprès d'une terrasse, je me suis arrêté avec mes agents la nuit, il y avait des nuisances à côté de Lingualamouchi, à côté d'une terrasse qui s'appelle Paris 15, parce que lorsque j'étais descendu, on a fermé, que ce soit au niveau de Dodane, au niveau de métro, au niveau de température, tout. Et on a appelé le bourgmestre, qui a appelé le commandant Siat.
Donc on peut dire que si l'opération aujourd'hui connaît un problème, c'est parce que les bourgmestres n'ont pas...
Non, mais attendez que je vous explique.
N'ont pas fait ce qu'ils devaient faire.
Non, non, je vais vous dire. Oui, c'est bien beau de sanctionner les bourgmestres, mais cette responsabilité, elle est partagée. Même la population, même nous, les ministres, même tout le monde. Alors, je vais vous raconter cette histoire. On a appelé le bourgmestre qui a appelé le commandant Siat. 30 minutes après, vous avez deux policiers qui sont arrivés. Qu'ont fait ces policiers? En regardant, le propriétaire de la terrasse leur donne d'un coï. Ils prennent d'un coï, ils sont partis. Les nuisances continuent. On a rappelé encore. C'était pas deux policiers, c'est quatre policiers. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus. On a remis quelque chose. Ces policiers ont été arrêtés puisque j'ai vu ça. J'ai appelé le commandant Siat. Ils ont été directement fait transférer. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on fait, qu'on se dit que tant que cela ne m'arrive pas, je ne suis pas concerné. Donc c'est-à-dire, selon l'adage, la liberté de l'autre doit commencer là où la mienne s'arrête. Et c'est ça qu'il faut décrire.
D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure. Alors, dans la salle, y a-t-il des questions? Qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir l'environnement, lutter contre l'insalubrité? Des questions? Oui. Merci. Le nom, la promotion et la question.
Merci pour la parole. Moi, c'est Adonis Malango, troisième doctorat, faculté de médecine, Bel Campus. Voilà. Comme j'ai l'occasion d'être en face du ministre provincial avec moi, ma préoccupation, c'est celle de savoir... Voilà. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement provincial de faire le suivi de ces projets? Dernièrement, il y a eu un accident mortel au niveau des triangles à l'entrée de l'université de Kinshasa. J'ai suivi ce gouverneur en train de dire qu'on ne doit plus trouver des gens en train de vendre sur le long de la route. Mais quand vous y allez à présent, rien n'a changé. Je trouve que le gouvernement provincial est incapable de faire ce suivi-là. Et aussi, est-ce que le gouvernement provincial ne trouve pas qu'il s'attaque aux effets au lieu de s'attaquer à la cause? En parcourant Matadi Kibala jusqu'au rond-point Ngava, mon constat est qu'il n'y a pas un marché moderne qui peut contenir toutes ces mamans parce qu'on est en train de vendre les poissons jusqu'à même le sol. Et imaginez-vous les différentes maladies que la population peut attraper à la longue. qu'est-ce que le gouvernement provincial a comme politique par rapport au marché moderne. C'est peut-être en faisant ces marchés modernes qu'on peut contenir l'opération marché pirate qui est à la base de salir nos différentes routes.
Bien, merci pour la question. D'autres préoccupations? Oui, monsieur.
Merci beaucoup pour la question, pour la parole. Je réponds au nom des juniors Ilunga Lushiku. Je suis ressortissant de l'Université de Lubumbashi, faculté de l'économie monétaire. Dans les années passées, Kinshasa était classé parmi les capitales les plus sales au monde. Alors, aujourd'hui, que pensent les autorités congolaises face à cette honte qui provoque même les inondations dans notre capitale? Merci.
Merci. Oui, Marcel.
Si, merci, oui, pour la parole. Merci pour la parole. Ma question va tout droit à l'endroit du ministre qui nous a dit tout à l'heure que les populations refusent la salubrité et que l'État crée les routes et les carniveaux. C'est vrai, l'État crée les routes et les carniveaux, mais il faut assurer un suivi. Et nous parlons d'insalubrité. Quand nous parlons d'insalubrité, j'ai déjà oublié de me présenter. Je suis l'étudiant Fax Tetu Constant en D3 médecine à la faculté. Je suis étudiant en D3 médecine à la faculté de médecine de l'UTBC. Alors, quand nous parlons d'insalubrité, nous voyons l'homme dans son milieu. Et quand nous voyons l'homme dans son milieu, nous avons une question anthropologique. Et donc, les projets Kimbopeto doivent avoir une dimension anthropologique. Je ne sais pas si dans le projet Kimbopeto, nous avons effectivement une rubrique qui vise à sensibiliser principalement la population sur la question de la propriété à Kinshasa. Nous voyons dans certaines avenues, il n'y a même pas un moyen pour les camions qui font le nettoyage de dans la ville. Ces camions ne peuvent pas accéder dans tous les coins et recoins dans les différentes avenues à Kinshasa. Alors, qu'est-ce que le gouvernement met sur pied comme projet, comme stratégie pour accéder à tous ces coins et recoins afin que l'insalubrité vraiment soit mise hors d'état de nuit dans cette ville?
Merci pour la question. Oui, monsieur.
Merci beaucoup. Je me nomme Idriss Moufouka. Je suis le responsable du département des énergies renouvelables à l'INPP et expert en énergie renouvelable. Je suis très, très ravi de participer à cette conférence et
à cette émission.
À cette émission. Et merci, monsieur le ministre, ainsi que les deux intervenants. Il est vrai que le programme Kimbopeto fait partie des objectifs de développement durable. Je ne sais pas ce que je veux dire, c'est une question ou c'est une suggestion. Mais moi, je pense que nous avons les cadres légaux, on a tout ce qu'on a. Mais si on ne fait pas des déchets une activité régénératrice d'argent, tout ce que nous pouvons faire, ça ne va pas marcher. Je m'explique. Il faudrait que le gouvernement provincial de Kinshasa arrive à faire des déchets un moyen où ces gens vont trouver quelque chose. Et pour que cette méthode soit mise en application, il faut ce qu'on appelle une chaîne de recyclage ou de traitement des déchets jusqu'à produire soit l'électricité avec ces déchets ou encore produire les gaz pour la cuisson. Donc si le gouvernement n'arrive pas à mettre en place cette chaîne de production ou de recyclage des déchets, on peut éduquer les gens aujourd'hui. La ville, elle est victime de l'exode rural. C'est chaque jour qu'il y a des gens qui viennent de partout. Ça serait très compliqué. Alors, la question que je pose à monsieur le ministre, avez-vous un programme de production de l'énergie électrique, ce qu'on appelle la biomasse, avec les déchets dans la ville, mais également annexer la production du gaz qu'on peut utiliser pour la cuisine?
Donc, d'après vous, cela aiderait à réduire le nombre de déchets que nous avons dans la ville, à assainir la ville, si on peut utiliser ces déchets pour produire de l'énergie?
Donc, si on peut utiliser ces déchets pour produire l'énergie, la conséquence, c'est quoi? Ces gens qui sont en train de jeter les déchets par-ci, par-là, ils vont commencer à garder ça parce qu'ils savent qu'il y a un véhicule du gouvernement provincial qui passera pour acheter ces déchets.
D'accord.
En ce moment-là, ils font de l'argent, mais en même temps, le gouvernement produit l'électricité et les gaz pour la cuisine. Merci.
Merci. Nous avons plusieurs questions. Nous avons une dame de l'autre côté. Allez-y.
Bonjour, je me présente. Je suis l'étudiante Vimpi Ali Mléa de la GA Médecine. J'aimerais poser la question au ministre de l'Environnement. Le Kinbopeto, ça avance, je suis fière, mais il y a une fois, j'ai vu des gens qui ont récolté de la saleté et l'ont jeté sur l'avenue Basson-Koussou. J'ai vu des camionnettes de Kinbopeto et j'aimerais savoir toutes les saletés que ces personnes ramassent. Ils les jettent sur des avenues où il y a un point de chute pour toutes ces saletés.
Merci. Monsieur le ministre Tengelito, vous avez la parole.
Je ne suis pas seul sur l'estrade. Il y a d'autres personnes.
Oui, il y a plusieurs intervenants, bien sûr.
Merci.
On commence par vous et les autres vont également intervenir.
Bien, malheureusement, je n'ai pas retenu le nom de tous les intervenants. Je sais qu'il y a un des étudiants qui a dit le suivi des mesures que l'on prend. Les suivis, on le fait. Donc, c'est-à-dire, c'est fait sous forme d'assignation qu'on a donnée, que ce soit au niveau des bourgmestres, que ce soit au niveau des chefs de quartier, que ce soit au niveau de tous les agents qui sont sur place, que ce soit au niveau de la police. Et lorsque cela n'est pas fait, c'est la sanction. Mais moi aussi, si je ne réussis pas, j'ai deux possibilités. Soit je reste, soit je peux vous dire que la culture de la démission n'est pas étrangère. Donc si ça va pas, on va démissionner. Le monsieur a parlé de ce qui se passe.
Voilà, la culture de la démission, on en parle.
Mais il faut être honnête avec soi-même. Si on vous demande de, si vous êtes un coureur de fond, on vous demande de faire du 100 mètres, vous n'allez pas faire le 100 mètres. Autant arrêter, vous concentrer sur le demi-fond. Il a parlé de ce qui se passait en fait au niveau de Matadi Kibala. La vision de son excellence, monsieur le gouverneur, il a bien constaté cet exode rural qui se fait au niveau des différentes communes et qui viennent en fait au centre-ville, parce que journalièrement, les communes de la Gombe, vous avez Lingwala, une partie de Kinshasa, Kitambu, une partie de Ngalima, c'est à peu près entre 2 et 4 millions de personnes qui se déversent chaque jour dans ces communes-là. Donc on a bien compris que ces personnes viennent rechercher quelque chose, viennent vendre quelque chose pour en tirer un substantiel revenu. Alors l'objectif, c'est évidemment de construire des marchés qui puissent répondre à tout cela. Bon, ces marchés ne se font pas du jour au lendemain, car nous avons évidemment beaucoup de partenaires qui sont venus ici, mais beaucoup d'entre eux, comme je dis, c'est comme dans un combat de boxe, beaucoup d'entre eux montent sur le ring, mais peu tiennent la distance. Donc il faut que cela soit fait, et les conditions qui sont faites, ça doit être fait par un maximum de matériaux de Congolais, employer un maximum de Congolais, et sous forme de partenariat privé-public. Vous savez que la loi qui réglemente l'attribution de ces marchés se fait sous base de partenariat privé-public, donc il faut respecter tout cela. Au niveau de Matadi Kibala, je vois que l'étudiant a dit, ce n'est pas, si je donne par exemple un exemple, vous avez le chef de l'État qui a dit qu'en 2023, il nous faut planter 1 milliard d'arbres. Ma question en fait revient vers vous, est-ce que c'est à lui de planter ces arbres? Il a donné une pulsion, il a donné une impulsion, il a donné une vision. Donc à ce niveau, chacun, que ce soit au niveau des politiques, que ce soit des administrés ou toute personne qui vit, même les administrés qui vivent dans les parcelles, doivent s'attribuer cela. Chacun doit se dire, moi aussi je dois planter un arbre, je dois même en planter 5, 6. Et à ce niveau-là, nous contrôlons dans le cadre au niveau des communes et nous sanctionnons évidemment.
Et une précision par rapport à la question de l'étudiant, est-ce qu'il y aura, il y a un projet de construction d'un marché à Matadi Kibala pour éviter tous ces marchés pirates qui contribuent à l'insalubrité?
Pas seulement en fait au niveau de Matadi Kibala, nous avons 4 districts ici dans la ville de Kinshasa. L'objectif c'est d'avoir 4 grands marchés dans ces districts, parce que vous savez que lorsque vous achetez un produit, que ce soit à Massina ou à la Gombe, les prix varient. Donc c'est surtout par rapport à ça, pour que éviter cet exode, que les gens restent dans leur district respectif, vendent leurs produits. Parce que lorsqu'une personne achète son produit, par exemple à Matadi Kibala, ou bien achète ça vers Mongafula et qu'il vient vendre ça au niveau de la Gombe, il prend en compte son transport, il prend en compte malheureusement certaines tracasseries. Et le prix de ce produit qui est censé être par exemple de 200 francs, lorsqu'il vend par exemple au niveau de la Gombe, il est multiplié par 20 ou par 30.
Alors quelqu'un a dit tout à l'heure, on peut bien lancer l'opération Kinbopeto, mais si... on ne fait pas la sensibilisation, on ne sensibilise pas au préalable la population, cette opération risque de connaître un échec.
Mais il a raison, parce que même dans le budget que nous on a présenté au niveau de l'Assemblée provinciale, c'est la sensibilisation. Il faut rééduquer les personnes. Et sans la sensibilisation, ça sera difficile. Et l'étudiant qui a parlé, s'il y avait une véritable vision, je vais prendre ça un peu en désordre, dans le cadre de la gestion de nos déchets. Le ministère ne navigue pas à vue. Donc c'est à vue, c'est-à-dire que nous sommes arrivés là, ça fait un peu plus de 6 mois. Les procédures et la politique se mettent en marche, mais lentement, selon l'entendement aussi avec nos partenaires. Le ministère, en fait, a 5 axes d'approche. C'est-à-dire, nous avons la collecte, le triage, le recyclage, valorisation, et évidemment, le reboisement qui intervient en amont comme en aval. Il y a une phase d'éducation au niveau des communes. Comme je vous dis maintenant, les communes doivent à leur tour reboiser. Et cette éducation passe au niveau des écoles, au niveau des quartiers, et j'en passe. Pour le moment, nous avons un partenaire, parce qu'il a parlé de matière de triage des déchets, qui nous accompagne déjà dans 4 communes, où nous récupérons les plastiques, mais nous avons décidé que lorsqu'il vient récupérer ce plastique, il ne doit pas le faire de manière obsolète ou aventurière. Donc il vient avec des grands bacs, il associe en fait les jeunes de ces communes ou de ces quartiers, lorsqu'il le remplit, il donne à peu près 3000 francs. Donc c'est-à-dire, journalièrement, nous récupérons à peu près entre 3 et 5 tonnes de ce plastique, qui est compacté, qui est broyé, jusqu'à obtenir des fines particules. L'idéal, ça serait que cette valorisation, c'est-à-dire pour boucler cette chaîne, c'est-à-dire que puisse se faire ici au niveau de Kinshasa, parce que ça crée de l'emploi, mais pour le moment, nous sommes bloqués à ce niveau de recyclage. Et je sais que Jody est très pressé, mais là où nous avons un grand problème, c'est au niveau de la collecte. Parce que comme la collecte n'est pas bien organisée, c'est pour ça que nous avons un problème au niveau de cette pollution visuelle que nous voyons, qui est jetée au niveau des caniveaux où j'en passe, même au niveau des écoles.
Il y a une étudiante qui a parlé des camions. Vous avez déjà acheté des camions qui,
je vais arriver
pour le ramassage des déchets.
Je vais arriver à ça jeudi. Et donc, si la collecte est assurée, ça va déjà nous épargner 60 à 65% de cette pollution visuelle que nous avons. Au niveau de notre ministère, il y a plusieurs arrêtés qui ont été introduits auprès de l'autorité urbaine, sur l'échelon, monsieur le gouverneur, et qui, à l'horizon, notamment, je pense que d'ici mars ou avril, nous nous sommes proposés de travailler d'abord sur 10 communes pilotes, où nous allons zoner ces communes, c'est-à-dire nous allons les séparer. Si on sait que, par exemple, à Kitambo, il y a 8 quartiers, Gombe, il y en a 12, ou j'en passe, nous allons séparer ça soit en 3, en 4. Et à partir de ce moment-là, ces zones, c'est-à-dire zone A, zone B, zone C, zone D, seront en fait mises à la disposition sous forme d'un partenariat. Beaucoup de personnes disent qu'il faut donner ça à des ONG.
Monsieur le ministre, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps d'accorder la parole au professeur Thierry Tangou, le doyen de la faculté d'agronomie et environnement ici à l'UTBC. Professeur Thierry, vous avez suivi la proposition de quelqu'un dans la salle qui a dit qu'on peut utiliser les déchets pour produire de l'énergie. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Okay, merci bien pour la parole. Je voudrais d'abord souligner un truc. Malgré la sensibilisation dont nous venons de mentionner, vu le volume de déchets produits par jour, rien que pour la ville de Kinshasa, d'après les statistiques de la RASKIN, la régie d'assainissement de la ville, des statistiques qui datent de 3 ans, 4 ans, c'est environ 7 tonnes de déchets par jour. Donc aujourd'hui, le ministre vient de m'essouffler, ils sont à 9000 tonnes. 9 tonnes ou 9000 tonnes?
9000
tonnes de déchets par jour.
Oui.
Et l'analyse faite de ces déchets, il y a environ 60 à 65% qui sont organiques, biodégradables. Donc, il y a des opportunités de valorisation dedans. La chaîne de traitement des déchets passe d'abord par la prévention, avant même d'envisager la valorisation. La prévention, c'est ce qui est lié effectivement à l'éducation environnementale, l'attitude à adopter vis-à-vis du déchet. Est-ce que je ne peux pas prévenir la production d'un déchet? Aujourd'hui, vous utilisez des notes, mais les versos ne sont peut-être pas utilisés. Ou peut-être vous avez une chemise qui ne vous plaît plus, vous voulez jeter cela. Est-ce qu'il n'y a pas une autre personne qui peut la réutiliser? Vous ne pouvez pas faire de vos notes de réemploi. C'est une attitude de prévention. Vous ne pouvez pas, nous les professeurs, corriger les travaux des étudiants en soft au lieu de nous imprimer des papiers et après on va encore augmenter le volume des déchets. Si nous arrivons à résoudre le problème de la prévention ne va pas nous donner zéro déchet. C'est alors qu'on passe au deuxième niveau de la gestion durable, c'est ce qu'on appelle la réutilisation. Je disais tantôt ici, le réemploi, la chemise de quelqu'un d'autre, vous pouvez utiliser ça. Ou bien, aujourd'hui, quelque chose qui a été destiné à un emploi X, au lieu de vous débarrasser de ça parce que cet emploi-là ne vous sert plus, vous pouvez passer ça à un autre usage. Si la réutilisation n'arrive pas à donner des solutions, on peut penser au recyclage. Le recyclage demande déjà un fonds d'investissement. Parce qu'il s'agit là déjà de la transformation de la matière première. Vous savez que notre pays passe un moment de transition dans bien de secteurs. Installer le recyclage des déchets à Kinshasa, au moment où nous sommes encore en train de vouloir maîtriser la collecte, c'est pas non plus évident. Mais je vous dis que ça existe déjà chez certains privés comme Femco, qui récupèrent des fois Nazol Rota Batterie, Bibende, Zika, tout ça, machine à voter entre guillemets, comme les gens disaient. Mais effectivement, on les récupérait pour produire d'autres choses. Ça, c'est le recyclage. Outre les recyclages...
Professeur, est-ce que les déchets ménagers peuvent être
recyclables? Bien sûr. Je vais maintenant à la valorisation.
Oui.
Et au stade de la valorisation, c'est souvent les déchets biodégradables où on peut les valoriser, le ménager là, en compostage pour l'agriculture. Ou on peut aussi faire la valorisation énergétique, c'est-à-dire produire, récupérer les gaz méthane ici d'un milieu bien composté à Nairobi, pour pouvoir utiliser cela comme une source d'énergie. C'est là, il y a déjà aussi des tentatives, mais à petite échelle. Même au niveau des travaux de recherche, nous donnons aux étudiants et nous essaierons de voir, lorsqu'on va maîtriser la petite échelle, on pourra toujours aller plus loin. Je pense que vous remarquez aussi au niveau de la fikine, on essaie un peu de compacter les plastiques, les matières plastiques. Ça entre dans la philosophie de la réutilisation, recyclage, valorisation. Cela existe, mais nous sommes encore au stade, on peut dire pilote, pas encore vraiment au stade d'exploitation. Alors l'élimination ultime, comme nous le disons, c'est lorsqu'on ne sait rien faire des déchets de toutes ces étapes que nous venons d'énumérer. C'est alors qu'on peut soit incinérer. Pourquoi nous disons ultime? Vous savez très bien que lorsque nous incinérons, nous pouvons polluer l'air. On peut aussi polluer les nappes. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas préconiser cela. Ça me fait trop mal quand je passe le matin dans certaines rues. Je vois toujours des mamans, voilà la place de l'éducation,
en train de brûler les déchets.
Alors que dans cette fumée-là, il y a certains gaz toxiques qui peuvent non seulement intoxiquer l'environnement proche et contribuer au problème des changements climatiques de la planète.
D'accord, professeur, je reviens à vous tout à l'heure.
Il y a un élément important.
Oui, allez-y.
Je voudrais ajouter dans l'élimination ultime, il y a la voie d'enfouissement des déchets. Aujourd'hui, certains disent que je ne peux pas supporter les frais de pousse-poussée. Dans leur parcelle, ils font un trou pour enfouir les déchets. Peut-être vous éliminez le volume des déchets, mais vous savez que là-dedans, il y a certaines réactions qui peuvent être opérationnelles, se dérouler et vous produire du gaz méthane qui plus tard pourrait faire exploser le milieu. Donc, voilà pourquoi le gouvernement, en son temps, avait pensé à construire les centres d'enfouissement technique de Passa. Mais vu le volume des déchets produits par jour à Kinshasa, et c'était que 9 stations de déchets, on a eu du mal quand même à faire face à ces volumes.
9000 tonnes donc, de déchets par jour.
Par jour.
C'est énorme.
Kinshasa. Voilà. C'est vraiment énorme.
C'est énorme.
Donc,
professeur,
on ne va pas donner des résultats
du
jour au lendemain. Il faudrait que nous puissions comprendre cela. Lorsqu'on collecte, on devra les transporter et si possible les traiter. Ça demande de gros moyens.
D'accord. Si je reviens à vous tout à l'heure. Professeur Jacques Rigaine, vous avez la parole.
Merci. S'agissant du traitement des déchets ou de l'assainissement, moi je pense que avant de pouvoir arriver à l'assainissement, nous pourrions prévenir. Parce que cette prévention, c'est une lutte en fait qui nous permet de pouvoir économiser en termes de moyens. Outre qu'économiser en termes de moyens, mais ça nous permet de gagner aussi autrement. Parce que quand on parle assainissement, nous avons trois points essentiels. Nous devons commencer par la collecte, nous devons suivre le transport ainsi que le traitement. Alors, ces trois points nous demandera assez de moyens, mais nous pourrions éviter cela en pouvant prévenir la population, l'encadrer, parler avec elle et passer avec des options de vulgarisation intense et d'éducation. Et je crois qu'avec ça, nous pourrions résoudre ces problèmes qui nous guettent.
D'accord. D'autres questions dans la salle par rapport à la lutte contre l'insalubrité? Monsieur Célestin Ntangamo, vous avez la parole.
Merci. C'est juste une recommandation que je voulais formuler à monsieur le ministre. C'est une question complexe, ce problème d'insalubrité dans la ville de Kinshasa. Si nous remontons un peu dans le temps, à l'époque, on avait la police d'hygiène qui passait dans les avenues. J'ai encore souvenance. Quand ils trouvaient quelque chose, ils essayaient de mettre même de produits. Autre chose, monsieur le ministre, faites un exercice avec vos collègues. Au cours d'une réunion, demandez maintenant à tous vos collègues qui, là où il habite, il a déjà initié une opération de salubrité dans son avenue. Et faites une descente surprise dans les avenues où habitent vos collègues pour voir vraiment si dans son avenue, les gens respectent. Ce serait aussi une bonne chose et ce serait un bel exemple. Et enfin, en dehors de la commune de la Gombe, choisissez soit un quartier ou une commune que vous allez appeler ça commune pilote pour la salubrité. Je prends l'exemple de la commune de Kassavubu qui est, je crois que ça doit être la plus petite en matière de superficie. Je ne sais pas, peut-être.
Voilà, il parle plutôt de Kitambo et Lingwala.
De Kitambo.
Voilà.
Vous prenez ça comme une commune pilote de salubrité. On va tester les chefs de quartier. Excusez-moi, je prends un exemple où j'ai vécu.
Même les chefs de rue.
D'ailleurs, j'allais parler pas des chefs de quartier, ce sont des chefs de rue.
Voilà.
Vous responsabilisez les chefs de rue. Et les chefs de rue vont se poser des questions. Oui, mais on va faire ce travail, on va être payé comment? Vous initiez une amende. Ces chefs de quartier, ils seront sensibilisés, ils vont être motivés, ils vont faire leur travail. Et enfin, pour terminer, le recensement dans les parcelles. À l'époque, dans une parcelle, il n'y avait que 2-3 maisons. Mais aujourd'hui,
vous avez des parcelles avec 20 ménages.
20 ménages. Et là, quand les gens sont... Et vous avez même des gens qui vont brosser même dans la rue.
Merci beaucoup. Nous parlons de la lutte contre l'insalubrité dans cette émission. Oui, Marcel, il y a une dame de l'autre côté.
Grace Mokanda, je suis étudiante en médecine.
Ok.
Ma préoccupation, elle est celle-ci. Dans la commune de Kinshasa, quand il pleut, après la pluie, les agents qui sont dans la commune, ils vident de fosses septiques. En tant que patriote qui prouve de l'amour envers son pays, qu'est-ce qu'il doit faire? Quel exemple vous donner aux autres? Parce que dans la commune, on voit le bourgmestre qui est là. Et quand on vit des fosses septiques, ils disent quoi? On voit dans d'autres pays, les prisonniers respirent l'air qu'il faut. Mais en RDC, ce n'est pas le cas. Vous partez dans la prison, vous trouvez des gens qui sont entassés de l'un aux autres. Ils sont coincés dans un endroit où ils respirent de l'air pollué. Ça sent le caca de je ne sais pas comment quoi. Vous n'arrivez même pas à entrer à l'intérieur. En tant que ministre, vous dites quoi pour ça? Parce que... Quand tu es prisonnier, tu es privé de la liberté et non de l'hygiène. Parce que les prisonniers de la prison de Kinshasa respirent de l'air pollué. Et je vais aussi poser la question pour le salongo qu'ils ont mis pour le jour de samedi. Les samedis, tout le monde fait les salongo. Moi, je suis dans la commune de Lemba. Les gens respectent le salongo. Mais dans d'autres parties, les gens ne respectent pas. Il peut y avoir des gens qui n'ont pas fait les salongo. Ils donnent de l'argent à ces gens-là.
Donc certains achètent les salongo.
Oui, ils payent. Donc genre, on peut dire la corruption. Mais ils n'ont pas fait les salongo. C'est ça un peu ce qui nous inquiète par rapport
Merci. À ces personnes. Merci pour ces préoccupations. Tati, Marcel, d'autres préoccupations. Oui, professeur Henri Kokolo.
Merci. Excellence, monsieur le ministre. Moi, je suis quinois. Je suis né ici, j'ai grandi. Tout ce qui concerne Kin me touche en premier, comme vous, pour que Kin Bobeto resplendisse encore. La première étape, c'est de pouvoir organiser autour de l'hôtel de ville. Parce que, professeur Tandrou a dit, la question de la sensibilisation. Créer des brigades autour de vous. Mais ces brigades-là ne sont pas de brigades qui vont aller arrêter les gens. Ce sont des brigades qui vont sensibiliser. On peut faire cela pendant 2 mois, rien que de la sensibilisation. Et chaque commune de Kinshasa est capable d'avoir 10-15 personnes pour faire la sensibilisation.
Souvent, la réponse, professeur, c'est Yom Torobong Sambo Kao.
Il n'y a pas de problème. Nous sommes Kinois, nous sommes Congolais. Cette chanson, nous l'avons toujours entendue. Mais cette fois-ci, on va leur dire Torobong Sanabino. Ça, c'est la première étape.
Voilà.
Ça, c'est la première étape.
Oui.
Deuxième étape. Cette brigade va dire à tout le monde, papa, vous voyez, ce papier, ce que vous avez utilisé, vous l'avez jeté. Vous ne devez pas le jeter. Montrez aux gens comment il faut faire. Il faut ramasser, il faut créer, il faut faire mettre ça dans un trou, il faut rassembler. Donc, deuxième mois, rien que la sensibilisation. En même temps, vous êtes en train de sensibiliser, vous êtes en train de leur dire, Torobongisambo, c'est vrai. Ce qu'on salue au Toebisio, au Salaté, Mbalaikoya, Bakokangayo.
Amende.
Oui. Troisième étape, c'est maintenant les amendes. C'est même, cette même brigade qui a sensibilisé va passer pour dire, monsieur, on t'a dit il y a 2 mois qu'il ne fallait pas le faire, tu le fais. Maintenant, l'amende, c'est, je ne sais pas.
Autant, vous devez payer voilà. Autant, tout ça.
Je crois qu'avec ça, Kin Bopeto sera profitable et aux Kinois et dans la ville.
Merci, professeur Henri. Comment lutter contre l'insalubrité? Oui, vous avez la parole.
Bonjour, je réponds au nom de la Torsa Nyembo. Ma question est celle-ci.
Oui.
Depuis que le numéro 1 du pays et de la ville-province de Kinshasa ont lancé l'opération Kin Bopeto, nous avons constaté que l'opération a échoué. Maintenant,
l'opération a déjà échoué.
A échoué jusqu'à aujourd'hui.
Ok.
Maintenant, qu'en pense le gouvernement provincial pour la réussite totale de l'opération? Parce que on constate que notre environnement est toujours malsain jusqu'à aujourd'hui.
Bien, merci pour la question. Alors, on va prendre une autre au fond de la salle. Oui.
Bonjour. Je suis l'étudiante Meta Elvire de L3 Environnement. D'après l'OMS, il y a 6 composantes pour l'assainissement. Nous pouvons citer l'hygiène du milieu, la gestion des eaux usées, la gestion de déchets spéciaux et ensuite. Mais ma question est celle-ci. À propos de l'opération Kin Bopeto, nous ne voyons qu'elle se base sur la gestion des déchets, mais sur d'autres points, je vois comme s'il n'y a aucun effet, il n'y a rien de tout ce qui peut se faire sur d'autres points. Merci beaucoup.
Bien, on prend la dernière question de cette série et les invités vont réagir. Oui, on vous écoute.
Oui, je suis Gersi Akwebio de L1 Environnement. Ma question est celle-ci. Les kermesses polluent l'environnement sonore et empêchent le développement de notre foire internationale. Est-ce que vous allez autoriser le déroulement des kermesses à travers la ville de Kinshasa par l'opération Kin Bopeto?
D'accord, merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole.
Merci, Jody. Je suis content d'une chose, c'est que au regard de tout ça, il y a quand même un intérêt par rapport à nous, au milieu dans lequel nous vivons. Mais je pense, lorsqu'on a posé différents problèmes, notamment dans le sens de l'assainissement, dans le cadre de l'organisation, j'ai l'impression qu'il y a quelques jours, j'étais souvent avec certains d'entre professeurs, parce que au niveau de son excellence, monsieur le gouverneur, c'est-à-dire auprès de l'autorité urbaine, comme je l'ai dit, on ne réinvente pas la roue. Il a pris certains arrêtés, parce que lorsqu'on a parlé des problèmes d'inondation, on a parlé des problèmes de l'hygiène, oui, il y a un arrêté pour réinstaurer la brigade d'hygiène. Cette brigade d'hygiène, elle sera policière en même temps, et elle va se charger de la salubrité. Parce que nous croyons, et je crois fermement que on peut assainir cette ville avec des amendes. Je cite à titre d'exemple, lorsque vous prenez par exemple le cas de Al Capone à l'époque de la Prohibition, je crois que ce monsieur tuait tout le monde, même il pouvait être assis ici, tuait tout le monde, mais c'est pas pour ça qu'on a arrêté. On a arrêté parce qu'il n'avait pas payé ses taxes. Donc je pense qu'on peut assainir cette ville en faisant payer des amendes à qui que ce soit. Et je suis convaincu que Tokoriko Bongisambo Mboka Oyo, vous dites que rien ne marche. Lorsque vous criez partout que rien ne marche, ça veut dire que c'est partout que ça ne marche pas. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, chacun doit accepter ce changement pour faire améliorer les choses. Le
professeur a proposé qu'on commence par une commune pilote, qu'on commence à expérimenter Kin Bopeto là-bas.
Ben, vous savez, nous avons donné le go à tous les bourgmestres. Donc, c'est-à-dire, fort de cette assignation, vous avez vu que lorsqu'il y en a certains qui ont été suspendu, accompagné de certains commandants Siat, vous avez vu qu'ils se mettent au travail. Moi, je suis de ceux qui disent, lorsqu'on a la volonté, on peut réussir. Je ne dis pas ça au hasard, je dis ça fort d'une expérience. J'ai fait 10 ans dans la commune de Kitambo.
Et c'est comme bourgmestre de la
j'ai
de
fait
cette
10
commune.
Ans en tant que bourgmestre de la commune de Kitambo. Et ce que nous discutons maintenant, ce sont des choses qu'on a eu à expérimenter, que ce soit par rapport à la brigade d'hygiène, la brigade de la salubrité, que ce soit par rapport aux nuisances sonores et que ce soit dans le cadre du reboisement. C'est possible en ayant la volonté, en n'ayant pas plus riche. Nous nous battons actuellement pour que les bourgmestres aient les moyens de s'attaquer quartier par quartier et aussi au niveau des rues. C'est vrai, les différentes questions que l'on m'a posées impliquera évidemment la présence de mes collègues. J'ai entendu une étudiante qui a parlé des prisons. Malheureusement, ce n'est pas de ma compétence. C'est au niveau national. On a parlé des problèmes des inondations. Il y a un arrêté qui a été pris par son excellence, monsieur le gouverneur, parce que vous devez savoir que la ville de Kinshasa est construite, en fait, à un caractère plus ou moins sablonneux. Les gens construisent de part et d'autre et on s'étonne demain pourquoi est-ce que les immeubles sont en train de s'écrouler. Vous prenez ma campagne, vous prenez Upen. Les gens construisent à 2-3 niveaux alors que c'est interdit. Lorsque vous regardez au niveau de Mongafou, là, Livoulou, lorsqu'il y a eu ces éboulements, on a trouvé des pancartes en disant que cette zone était réservée pour le reboisement. Donc c'est-à-dire, on se dit, bon, tant que l'État n'est pas là, je vais continuer. S'il existe, il va m'arrêter. Donc c'est-à-dire que nous sommes tous tenus contents de ce qui se passe dans notre ville. Si on aime vraiment cette ville.
Monsieur le ministre, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire un tour dans les quartiers où habitent vos collaborateurs pour constater si c'est propre ou pas, comme l'a proposé le professeur Célestin?
Bah écoutez, je suis déjà descendu à la commune de Ngaba, je suis allé à Maluku, je suis allé même au niveau de Selembao. Je vois que, surtout au niveau de Ngaba, mon collègue s'implique dans le développement. Donc de toute façon, il y a un mot d'ordre qui est donné à nos collègues par l'autorité urbaine. Chacun doit développer là où il reste. Et donc c'est déjà une obligation. Et je crois que par rapport au leitmotiv qui a été évoqué, oui, tout le monde a déjà ce devoir. Vous savez, dans le gouvernement dans lequel nous sommes, il y a un mot d'ordre qui a été donné par l'autorité urbaine. Ce n'est pas parce qu'on a la fonction qu'on a des droits. On a des devoirs et les droits, ce n'est pas au niveau du ministère. Donc c'est-à-dire, si vous venez là-bas en disant que vous avez des droits, vous n'avez pas votre place. Et ces devoirs-là, c'est de travailler 24 heures sur 24. Et en matière d'itinérance, je veux même vous étonner, plusieurs fois par semaine avec l'autorité urbaine, on circule parfois jusque 2-3 heures du matin et on implique même les bourgmestres allant jusqu'à Nselé, Kibanseke, même allant jusqu'au niveau de Maluku et on fait cette tournée. Et c'est par rapport à ça qu'on donne cette impulsion et on oblige les bourgmestres, les chefs de quartier, les chefs de service à faire ce travail-là parce que c'est un travail de tous. Si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place. Et je sais que vous voulez déjà donner le micro. Je vais juste dire cela.
Oui.
Je sais que les besoins sont pressants, mais vous savez que nous ne pouvons agir que dans un cadre légal. Il y a plusieurs édits, c'est-à-dire qui sont des lois provinciales qui sont en chantier, que nous allons déposer au niveau de l'Assemblée provinciale, notamment dans le cadre de lutte contre l'insalubrité qui concerne les épaves. Vous savez que la loi foncière dit clairement que tout bien mobilier, immobilier, lacustre qui se trouve sur la voie publique, dont le maître ne se fait pas connaître, appartient à l'État. Dans ce projet d'édit qu'on va présenter, les épaves ou les véhicules qui se trouvent sur la voie publique, sur base de constat d'un PV, auront 15 jours pour l'évacuer. S'ils ne le font pas, oui. Ben, ils iront directement
Monsieur
à la
Monsieur le ministre, je reviens à vous. Le temps de donner la parole au professeur Thierry Tangou, doyen de la faculté d'agronomie. Professeur, on a entendu dans la salle quelqu'un parler de l'opération, le salon qui se passe chaque samedi. Et ben, c'est pas tout le monde qui le fait. Or, si tout le monde faisait le salon correctement, la ville serait propre. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cela?
Bon, l'opération salon, c'est un mot d'ordre de... En fait, je dirais relancé par le gouvernement provincial que nous avons maintenant. Mais c'est une opération qui date déjà depuis des années. Et se comporter de la sorte, racheter les Salongo pour ne pas mettre de la propriété et respecter les consignes, c'est quelque chose à bannir. Et nous devons normalement ne pas exposer les gens, nous devons normalement accuser ceux-là qui sont dans ces genres de pratiques. Mais je voudrais peut-être aussi apporter une précision par rapport aux déchets. J'ai vu, il y a une question sur le fosse septique et là on a parlé des maillons qui ne sont pas touchés. Effectivement, lorsque nous parlons de Kinbopeto, nous avons tendance à voir beaucoup plus les déchets solides. Mais il y a aussi des déchets liquides. Et dans les déchets liquides, c'est là où nous avons le bout des vidanges, ceux qui vont dans celles qui vont dans les fosses septiques. Nous avons les eaux usées des ménages, nous avons les eaux usées des industries, nous avons des eaux pluviales qui échappent au réseau, et tout cela mérite d'être géré. Et comme j'ai dit, quand vous entrez dans la gestion des effluents urbains, vous allez comprendre que c'est une opération qui est encore en ses débuts, oui, qui en principe devra s'étendre à la longue pour récupérer tout ça.
Professeur, est-ce que vous êtes d'avis avec cet étudiant qui a affirmé que Kim Bopeto est un échec total?
C'est très tôt d'affirmer cela. C'est vraiment très tôt parce que nous avons bien souligné cela. La gestion des déchets, ce n'est pas une petite affaire. C'est quelque chose qui demande non seulement un budget colossal, mais également l'éducation environnementale. Accordons le temps au gouvernement provincial. Nous allons voir, nous avons été habitués à vivre dans l'insalubrité. C'était devenu normal. Parce qu'aujourd'hui même, lorsque vous prodiguez un conseil qui va dans le bon sens, vous avez dit ici, on va vous dire « Yomutorobongsambo kao ». Ça veut dire que nous trouvons normal de vivre dans les antivaleurs, dans l'insalubrité. Laissons les temps au temps, accordons du temps. Nous sommes en train de mobiliser. Nous lançons un appel pathétique à vous autres. J'ai remarqué à travers les questions, vous aimez bien les sciences de l'environnement. Venez vous inscrire, appelez les gens à venir étudier cela. C'est aussi une opportunité pour que nous ayons des scientifiques, beaucoup d'acteurs dans le domaine qui vont booster et apporter un plus au gouvernement provincial de bien travailler. Des fois, ils sont là, il manque des fois des acteurs à collaborer.
Oui.
Parce que dans toute la ville de Kinshasa, vous verrez qu'il y a peut-être très peu d'acteurs qui sont réellement dans le domaine.
Bien, on va bientôt terminer cette émission. Professeur Jacques Rigen, vous là, vous avez suivi la proposition du professeur Henri Kokolo. Avoir une brigade qui va travailler pendant 2 mois pour la sensibilisation. Ensuite, il y aura un moment de répression. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette proposition?
Oui, je vois dans la salle que tout le monde est motivé à pouvoir résoudre ces problèmes. J'espère que le moyen le plus facile à pouvoir y arriver, c'est de pouvoir sensibiliser cette population, éduquer cette population, être à côté de cette population, montrer à cette population les techniques appropriées. Et je crois par l'éducation et la sensibilisation, nous pourrions résoudre ce problème de l'insalubrité en RDC et puis à Kinshasa en particulier.
Monsieur le ministre Didier Dengelito, nous vous disons merci d'avoir participé à cette émission. Merci au professeur Thierry Tambou, le doyen de la faculté d'agronomie à l'Université technologique Bell Campus. Et merci au professeur Jacques Rigen-Boula de la faculté d'agronomie. Mesdames et messieurs, merci d'avoir participé à cette émission spéciale au Capi Service en direct de l'Université technologique Bell Campus à l'occasion des 18 ans de Radio Capi. Nous disons merci à toute l'équipe de production, Bob Landou, Jacques Bosenga, Marcel Mombo, Tati Mampoukou, John Mopengo, Nestor, toute l'équipe, merci. Et à vous, chers étudiants, merci d'avoir participé à cette émission. Et nous disons également merci à M. Léopold Bossekota, le fondateur de cette université qui est ici parmi nous. Merci à vous et à la prochaine.